J'aime bien dire que les origines, c'est un peu comme l'argent, il n'y a que ceux qui en ont qui vous diront que c'est pas important.
Les histoires de 28 minutes. Ses origines, Arthur, notre conteur du jour, les a cherchées partout, mais vraiment partout. Enfin, entendons-nous bien, la moitié de ses origines, puisque sa mère, il la connaît, c'est sa maman, quoi. Son père, par contre, son père n'est pas son géniteur. Et oui, ce jeune homme, ce jeune Arthur, est le fruit d'une PMA, la fameuse procréation médicalement assistée. Or, un jour, Arthur a décidé que son donneur anonyme, il lui fallait le retrouver.
Mes parents se sont rencontrés dans les années 70 et ils ont cherché pendant pas mal d'années à avoir des enfants. Malheureusement, le spermogramme de mon père était assez mauvais. Et du coup, très vite, ils ont cherché à faire des opérations au niveau notamment des testicules de mon père pour voir s'il y avait moyen de réparer les choses et de faire en sorte que mon père... arrive à faire en sorte que sa femme soit enceinte. Et puis ça n'a pas fonctionné. Et au bout d'un moment, mon père a parlé de la technique de l'insémination artificielle avec un donneur de gamètes anonyme à ma mère. Donc elle a mis un peu de temps avant de s'acclimater à cette idée. Et puis finalement, ils se sont dit qu'il y avait beaucoup d'avantages. Enfin, mon père trouvait que c'était formidable parce que ça permettait à ma mère de vivre une grossesse. 20 ans plus tard, ils avaient 3 enfants issus de 3 donneurs différents. Mes parents ont décidé de nous dire le plus tôt possible comment on était conçus. Et donc notre mode de conception, on nous le racontait quand on était dans le ventre de notre mère. J'ai vu ma mère, d'ailleurs, quand elle était enceinte pour ma petite sœur, parler à son ventre de manière très calme et douce, en racontant l'histoire de manière très simple, en disant, ben voilà, avec ton père, on a cherché à faire en sorte que tu puisses venir au monde. Et normalement, les parents y arrivent tout seuls sous la couette, mais nous, on a dû recourir à la graine d'un monsieur généreux, et donc... Et donc c'est grâce à ce monsieur-là que tu es là, c'est ton histoire et c'est la nôtre. Et du coup, il n'y a jamais eu de découverte, enfin de surprise, bonne ou mauvaise, de découvrir son mode de conception de manière fortuite. Et donc on a toujours su comment on avait été conçu. D'ailleurs, c'était tellement normal pour moi que je pensais que tout le monde était conçu comme ça. C'est amusant parce que mes enfants nous entendent parler de ce sujet. Et un jour, on était à la crèche et j'ai mon aîné qui dit à un enfant qui pleurait, qui disait « Oui, j'attends mes parents. » Et il lui dit « Tu cherches ton papa? Tu cherches ta maman? Mais ton donneur, il est où ?» Alors, j'ai dû lui expliquer que non, tout le monde n'a pas un donneur. Mais bon, que voulez-vous, il a 4 ans. Et donc, c'est bien pour montrer que les enfants prennent pour normal ce qui est leur vécu, hein, tout simplement. Donc, Moi, je m'attendais à ce que mes parents me présentent mon donneur, puisque c'était un gentil monsieur, c'était un monsieur généreux, c'était quelqu'un de bien, en fait, et qui avait donc permis... à mes parents de devenir parents. Et donc, à chaque fois que mes parents invitaient des amis à la maison, je me disais, on va me présenter. J'étais dans l'attente qu'on me présente mon donneur. Et cette rencontre ne se faisait pas. Cette présentation ne se faisait pas. Et donc, j'ai attendu. Et puis, atteint l'âge de l'adolescence, j'ai dit à mes parents, bon, écoutez, ça commence à bien faire. Je suis majeur, vacciné, maintenant je veux savoir qui est mon donneur. Et c'est là que j'ai vraiment réalisé l'anonymat qui est d'ordre public en France, c'est-à-dire même si tout le monde était d'accord pour que je rencontre mon donneur, c'est-à-dire que mon donneur était d'accord, que moi-même j'étais d'accord que mes parents étaient d'accord, c'est l'État français qui dit non. Cette rencontre ne se fera pas. C'est d'une infantilisation remarquable. C'est-à-dire que c'est l'État qui se protège de ses propres peurs, mais il protège plus les gens. Je travaillais dans un café parisien l'été pour gagner des sous. Et le hasard fait que je rencontre un journaliste du Parisien. À cette période-là, je venais de découvrir l'anonymat tel qu'il a été institué, donc d'ordre public. En gros, c'est un anonymat ad vitam aeternam qui me scandalisait et j'en parlais tout le temps. Et donc, j'en parle aussi à ce journaliste, à ce client. Bon, c'était pas très professionnel, mais bon, ça débordait. Hein, voilà. Et lui me dit, il faut absolument faire un article. Et donc, une semaine après, je me retrouve dans mon appartement à raconter mon histoire à un journaliste, à Hélène Brie en l'occurrence. Et l'article du Parisien sort le 22 août, le jour de l'anniversaire de ma petite sœur. Et donc, j'appelle ma petite sœur qui était au bord de la mer. Je lui dis, bah, bon anniversaire, achète le journal Le Parisien, ou aujourd'hui en France, ça dépend de là où on se trouve. Tu verras, il y a un super article. Et donc cet article dit Arthur recherche son père biologique. Et tout a démarré comme ça, le 22 août 2006. Le test ADN, en 15 ans de combat, j'ai dû entendre 100 000 fois des journalistes et d'autres personnes me dire « Mais pourquoi vous ne faites pas un test ADN ?» Bon, à la base, c'était quand même interdit. Hein. Donc, j'étais un peu surpris qu'on me fasse cette remarque. Et puis, j'ai été convaincu récemment parce que les tests ADN offraient la possibilité de connaître les origines géographiques. Donc, je m'étais dit, quitte à ne rien connaître de mes origines, là, je pourrais deviner à peu près quelles sont les origines, et notamment celles que j'ai reçues du donneur. Et puis, je ne m'attendais pas du tout à ce qui est... Enfin, si, je savais que je me retrouverais sur un fichier qui comparerait mon ADN avec plein de personnes, mais je n'avais pas conscience que ça pourrait aller aussi vite. Et donc, je l'ai fait, mais disant, bon, de toute façon, c'est une bouteille jetée à la mer. Hein. Moi, quand j'avais 5 ans, j'avais mon parrain qui était aux États-Unis et je criais devant l'océan son prénom et j'étais persuadé qu'il m'entendait. Ben là, c'était la même chose. Franchement, c'était un cri dans l'océan, quoi. Bon, donc, voilà, on était plus du côté de la pensée magique que d'un potentiel exploitable. Et donc, quand j'ai eu mes résultats et que je me suis dit, tiens, que je découvre Laura Sergei, first cousin, c'est-à-dire cousine au premier degré, et que je partageais 6% de mes gènes avec cette personne, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Au début, je me suis dit, ils ont dû se gourer, c'est pas possible. Et puis, 30 secondes après, ma femme trouve le profil de cette fameuse Laura sur LinkedIn. Je me dis, bon, bah, voilà, je me suis dit, bon, bah, je vais envoyer un message. Hein. Elle me répond dans la minute, donc génial, en me proposant de s'appeler par WhatsApp parce qu'elle vit à Londres. Bon, et puis là, je passe une heure et demie au téléphone avec elle, je lui explique ma situation. Elle me dit plusieurs fois, non mais connaître ses origines, c'est la base, c'est la base, c'est la base. Donc elle est très ouverte, pleine d'empathie. Et je découvre en discutant avec elle qu'elle fait de la généalogie en ligne. Et donc ça a été très facile de retrouver son arbre. Et ma chance, c'est que dans sa famille, il y a trois pelés intondus. Que des nanas, pratiquement. Mais il n'y avait qu'un seul homme qui s'appelait Gérard et qui avait le profil de celui qui était né à la bonne date, à peu près à la bonne période et qui avait vécu en France. Et donc, ça pouvait être que lui, mon donneur. J'ai envoyé un courrier, enfin j'ai transmis un courrier à ses voisins, qui sont des gens charmants, très disciplinés, qui ont donné le courrier en main propre à Gérard le 23 décembre. Le 25 décembre, je reçois un coup de fil, je suis en voiture, la veille, il y avait eu le réveillon en famille, on était à la campagne, mon portable ne captait pas, enfin bref. Et donc là, je me retrouve entre deux fossés sur un chemin en terre avec mes enfants qui dorment derrière. Il est 10h du matin. Je conduis tout doucement et là, mon téléphone sonne. Chance, je suis à côté d'une antenne relais. Donc je capte deux barres. Je reconnais pas le numéro, je mets sur haut-parleur, allô, oui. J'entends quelqu'un qui me dit « Bonjour, qui est-ce qui pourrait t'appeler un 25 décembre à 10h ?» Voilà, je me dis « Bon, alors je vois aux devinettes, 25 décembre à 10h, j'ai pas du tout envie. » Je lui dis « Je sais pas, mais bon, j'ai suffisamment de questions comme ça dans ma vie, donc si on pouvait me répondre rapidement, ça serait bien, ou en tout cas me répondre avant qu'on raccroche, ça serait pas mal. » Et donc là, il me dit « Oui, vu le temps que t'as passé à me chercher. » Alors là, je me dis « Ah, ça commence à être important, donc là, je me gare. » Je me dis là oui, effectivement, j'aimerais bien que quelqu'un m'appelle. Si ça pouvait être Gérard, ça serait vraiment super. Et là, j'entends la voix qui me dit oui, c'est Gérard. Pouh. Alors là, je me dis ok. Donc là, j'ai les larmes qui montent. Je me dis c'est incroyable. Et mes enfants dorment. Et je lui dis « Merci beaucoup de m'appeler un 25 décembre. » Il me dit « Bah oui, j'ai fait exprès. » Je dis « Ok. » « Bravo de m'avoir retrouvé, j'aimerais bien savoir comment t'as fait. » Bon, ok. Donc je m'attendais peut-être à de l'hostilité, voire, parce que c'est quand même un peu intrusif hein, d'envoyer un courrier et tout ça. Non, pas du tout. Et là, je lui dis oui, je vous expliquerai, vous inquiétez pas, mais est-ce que je peux vous poser une question urgente pour moi ? Il me dit oui, vas-y. Et je lui dis, est-ce que je peux savoir pourquoi vous avez donné ? Et donc là, il me dit, j'ai eu pendant 7 ans, avec ma femme, on n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et donc, je comprenais très bien la douleur des couples qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Donc, moi, j'étais donneur de sang régulier. Et quand on m'a proposé de donner, vu que j'avais réussi à avoir quand même des enfants, je voulais aider un couple à devenir parent. Boum. Et donc là, ça y est. Je réponds, il répond en 10 secondes à une question que je me pose depuis 20 ans ou 30 ans. Pourquoi il avait donné ? Parce que je vous jure, qu'on se lève pas le matin en se disant « je vais donner mes gamètes ». Ça n'est pas possible. Quand j'avais 5 ans, quand j'avais 10 ans, quand j'avais 15 ans, quand j'avais 20 ans, je m'étais dit « je ne peux pas répondre à la place de mon donneur ». Sinon, je fais des projections de moi-même, mais c'est aliénant de répondre à sa place. Et donc là, pour moi, le donneur devenait presque libre. C'est-à-dire, il ne subissait pas les projections éventuelles que j'allais faire sur lui. Et là, il me dit « Écoute, je ne sais pas encore si on va bien s'entendre ou pas. Je ne sais pas si nos personnalités sont compatibles ou pas. En tout cas, tu dois avoir beaucoup de questions en tête depuis tout ce temps. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on s'entende bien ou qu'on ne s'entende pas. Tu notes toutes tes questions et moi, je m'engage de toute façon à répondre à toutes tes questions. » Je me dis « Ok, trop bien. » Donc là, après, je lui repose des questions sur sa famille, les origines de sa famille, qui étaient ses parents. J'interroge les propres origines de mon donneur. Et là, je découvre ce qui va vraiment donner une dimension humaine aux origines, c'est que j'apprends que le père de Gérard était pupille de l'État. C'est-à-dire que dans cette famille-là, personne ne porte le nom du père. Tous portent le nom d'une mère. Cette femme qui a abandonné cet enfant sur les marches d'une église. Et là, c'était vraiment intéressant pour moi parce que il y avait tout un tas de questions que je pouvais me poser sur le divan d'un psy, des questions que je ne comprenais pas. Et là, ça se mettait à prendre corps et à s'étoffer un petit peu. Et c'est intéressant, je trouve, d'avoir une lecture sur plusieurs générations des origines, plutôt que de la guider concentrée juste sur une personne. Donc en fait, en un coup de fil, j'obtenais... je passais de 100 000 à une dizaine de questions. Il vaut mieux une dizaine de questions un peu compliquées que 100 000 questions qui vous polluent au quotidien. Gérard, il me dit, écoute, tu ne me rappelles pas, c'est moi qui te rappelle. J'attends une semaine, j'attends deux semaines, j'attends trois semaines. Il m'appelle, je lui dis bon, alors ça va pas du tout. On va changer de méthode parce que moi, je savais pas quand est-ce que vous alliez vous m'appeler. Je peux pas être dans l'attente comme ça. Moi, j'ai été dans l'attente toute ma vie. Alors si c'est pour attendre un coup de fil, non merci. Donc, est-ce qu'on peut mettre en place quelque chose de régulier? Et donc, on a décidé de s'appeler tous les samedis à 10h. Et tous les samedis à 10h, j'enregistrais toutes nos conversations. Très vite, j'ai compris que Gérard avait une santé fragile. Et je me suis dit que je ne pouvais pas laisser s'échapper mes origines comme ça. Et en fait, j'avais très peur qu'il meure avant qu'on se rencontre. Et donc, je m'étais dit, le moindre petit fragment de souvenir que j'ai, je vais les garder précieusement, je vais en faire des archives et je pourrai les transmettre à mes enfants et... Et puis maintenant c'est dans un livre, donc c'est encore mieux. Mais en fait c'était tellement rapide et irréel qu'il m'était arrivé de réécouter des discussions en me disant est-ce que j'ai rêvé ou pas. Mais en fait non, j'avais pas rêvé. Et du coup on a pris le temps. Et donc le premier coup de fil était le 25 décembre et je le rencontrerai seulement le 19 mars. Voilà, parce que c'était important de pas... Puis bon, moi, ça fait 30 ans que je réfléchis aux questions de bioéthique. Lui, je voyais bien qu'il débarquait. Hein. Il y a un élément qui était assez troublant. C'est que, bon, je le vous voyais, et puis au bout d'un moment, je lui dis, mais comment je dois vous appeler? Comment ça marche? Il me dit, bah écoute, tu me dis tu m'appelles Gérard, et puis moi, je vais t'appeler mon bébé. Pouf, gros blanc. Là, moi, je tombe des nues, j'enregistre la discussion, je suis dans la voiture, sur un parking près de Grenoble. Et là, dans ma tête, je me dis, waouh, ok. Donc, en fait, il va falloir lui expliquer. Il va falloir tout reprendre à zéro. C'est-à-dire que pour les gens conçus normalement, le père et le géniteur, c'est la même personne. Mais moi, vu que j'ai toujours su comment j'avais été conçu, j'ai un père, une mère, un géniteur, et c'est séparé. J'ai jamais, et mon père n'a jamais joué au géniteur avec moi. Donc, il n'y a pas de confusion des rôles et des places. Moi, le jour où j'ai rencontré mon donneur, chacun était à sa place. Mon donneur était mon donneur, redevenait mon donneur. Mes parents redevenaient mes parents qui ont eu recours à la PMA avec un donneur. Et chacun était à sa place. Et ça, c'est important parce que, à part la rencontre, je ne sais pas ce qui permet de vivre cet accomplissement, de se rendre compte que chacun est à sa place. Le hasard fait que je suis le premier à avoir retrouvé mon donneur, donc il y a une espèce de responsabilité. Et puis mon père m'a demandé de faire en sorte que les choses, enfin que la société puisse s'emparer de mon histoire pour se reposer ou se poser les questions sous le prisme de ce qui m'est arrivé et de comment ça se passe l'accès aux origines. Donc moi, ça fait plus de 15 ans que je milite médiatiquement sur ces sujets. Il était évident qu'il fallait... En fait, je pense que c'est peut-être une façon pour moi d'être donneur. Alors, pas donneur de gamètes, mais donneur du fruit d'une quête. Et finalement, c'est vrai que ce livre s'inscrit quand même du côté de la transmission.
Arte Radio.